Chapitre 65. Malgré sa taille imposante, la Sagrada Familia, la basilique de la Sainte Famille, semble flotter au-dessus du sol, suspendue à ces flèches délicates qui fendent le ciel. Les tours ajourées de diverses hauteurs donnent à ce sanctuaire des airs de château de sable, érigé par quelques géants facétieux. Lorsqu'elle sera terminée, la plus haute de ces flèches atteindra une hauteur de 170 mètres, plus haut que le Washington Monument. À côté d'elle, la basilique Saint-Pierre à Rome paraîtra lilliputienne. Trois façades protègent l'édifice. À l'est, la façade de la Nativité s'élève tel un jardin suspendu, avec des festons de plantes, de fruits et d'animaux. Par contraste, la façade de la Passion, à l'ouest, est un squelette austère de pierre où les piliers inclinés évoquent des os de titans. Au sud, la façade de la Gloire, une fois terminée, se dressera au-dessus d'un enchevêtrement de démons, d'idoles païennes, en symbole d'ascension de l'âme, de vertu et de voie vers le paradis. Tout autour, un entrelacs de tourelles, parois et contreforts, comme façonnés dans la boue, jaillissent de terre. Ainsi que l'a écrit un critique d'art, la base de la basilique ressemble à une souche d'arbres pourris où aurait poussé une colonie de champignons. En plus de l'iconographie religieuse, Gaudi avait inclus d'innombrables références au monde de la nature. Des tortues supportant des colonnes, des arbres poussant des façades et même des escargots géants et des grenouilles escaladant les parois. Malgré son extravagance extérieure, la véritable surprise que réserve la Sagrada Familia se trouve à l'intérieur, une fois passées ses portes. Les visiteurs restent bouche bée devant les piliers vertigineux de la nef, qui, dans un foisonnement de formes, s'élèvent comme autant d'arbres supportant une canopée d'albâtre à plus de 60 mètres de hauteur. Gaudi avait créé cette forêt de colonnes pour que le fidèle se sente en symbiose avec les anciens quand les forêts étaient les premières cathédrales du monde. Ce monument de l'art nouveau avait ses adorateurs comme ses détracteurs. Sensuel, spirituel et organique pour les uns, vulgaire, prétentieux et profane pour les autres. James Michener disait que c'était le bâtiment sérieux le plus farfelu de la planète. L'Architectural Review l'avait appelé « le monstre sacré de Gaudi ». Son financement lui aussi était une incongruité. Les travaux étaient réalisés uniquement grâce aux dons. La Sagrada Familia ne recevait aucune aide du Vatican ni de l'État. Malgré les années de vache maigre, les interruptions du chantier, l'Église montrait un acharnement darwinien à survivre, résistant à la mort de son créateur, à la guerre civile, aux attaques terroristes des anarchistes catalans et même aux dangereuses vibrations du métro tout proche. La Sagrada Familia était toujours vivante et continuait de grandir. Durant les dernières décennies, les finances de la basilique s'étaient notablement améliorées grâce aux 4 millions de touristes annuels qui payaient leur tribut pour visiter la merveille inachevée. Avec en ligne de mire une fin des travaux pour 2026, le centenaire de la mort de Gaudi, la basilique semblait vivre une seconde jeunesse, ses flèches s'élevaient vers le ciel avec une urgence et un espoir juvénile. Le père Joaquim Beña, le recteur de la basilique et son plus vieux prêtre officiant, était un octogénaire jovial, avec des lunettes rondes et un visage tout aussi rond planté sur son petit corps. Le rêve de Beña, vivre suffisamment longtemps pour voir enfin son temple achevé. Ce soir toutefois, le père Beña ne souriait pas. Il était resté longtemps derrière son ordinateur, médusé par les événements de Bilbao. Edmond Kirch assassiné? Ces trois derniers mois, il avait tissé, contre toute attente, une profonde amitié avec le futurologue. Le pourfendeur des religions était venu le trouver personnellement pour lui proposer une donation, un montant sans précédent. Pourquoi une telle offre? S'était demandé Beña. Un coup de pub? Voulait-il se mêler des travaux? Mais, en échange de son don, Kirch n'avait eu qu'une seule exigence. Beña n'en revenait pas. Rien d'autre? C'est très important pour moi, sur un plan personnel, avait dit Kirsch. J'espère que vous me ferez l'honneur et la joie d'accepter mon offre. Par nature, Benya avait confiance dans les hommes, mais cette fois, n'était-ce pas pactisé avec le diable? Il avait scruté les yeux de Kirsch, tentant de percer ce mystère. Et d'un coup, il avait compris. Derrière l'assurance du futurologue, derrière ses airs de séducteur, il avait vu le désespoir. Ses orbites creuses, ce corps maigre ne trompaient pas. Cela lui rappelait le temps du séminaire où il travaillait dans un hospice. Edmond Kirsch était malade. Était-ce la peur de la mort? Ce legs était-il une façon de s'attirer le pardon d'un dieu qu'il avait tant vilipendé et méprisé? Le plus preux dans la vie est toujours un agneau devant le trépas. Benya songeait à Saint Jean, qui avait consacré son existence à convaincre les mécréants de rejoindre la gloire de Jésus-Christ. Si un athée comme Kirsch désirait participer à l'achèvement de ce sanctuaire magnifique, il aurait été indigne d'un chrétien et cruel de rejeter sa requête. En outre, il incombait au recteur de lever des fonds pour la basilique. Comment justifier auprès de ses confrères qu'il ait refusé une telle somme sous prétexte que le donateur était un athée notoire? Finalement, Benya avait accepté le marché de Kirsch, et les deux hommes s'étaient chaleureusement serré la main. Cela remontait à 3 mois. Un peu plus tôt dans la soirée, le père Benya avait suivi la présentation de Kirsch au musée Guggenheim, d'abord gêné par sa diatribe anti-religieuse, puis intrigué par la teneur de sa découverte, et enfin horrifié par le meurtre. Hypnotisé par les nouvelles qui se succédaient, il lui avait fallu du temps pour trouver la force d'éteindre son écran. On parlait de complot, d'entente secrète. Sous le choc, le père Benya s'était installé dans la nef, seul, au milieu de la forêt pétrifiée de Gaudi. Mais la paix se refusait à lui. Qu'est-ce que Kirsch avait découvert? Qui l'avait tué? Le prêtre ferma les yeux. Hélas, ces questions tournaient en boucle dans sa tête. D'où venons-nous? Où allons-nous?
Nous venons de Dieu, s'écria-t-il. Et nous retournons à lui.
Ces mots résonnèrent si fort dans sa poitrine que tout le sanctuaire lui parut vibrer. Une lumière aveuglante perça un vitrail au-dessus de la façade de la Passion et fouilla les entrailles de la basilique. Benya se leva et s'approcha. À présent, toute la nef tremblait, tandis que le ray surnaturel parcourait la longueur du vitrail. Quand il sortit sur le perron, il se retrouva pris dans une tempête. Au-dessus de lui, sur sa gauche, un gros hélicoptère descendait du ciel, son projecteur fouillant la façade. L'appareil se posa derrière les grilles, à l'angle nord-ouest, et coupa les moteurs. Le vieil homme, planté sur les marches, vit 4 personnes descendre à terre et se précipiter vers lui. Il reconnut aussitôt les 2 premières. On ne voyait qu'elles sur les médias, la future reine d'Espagne et le professeur Langdon. 2 colosses portant l'insigne de la Guardia Real les suivaient de près. Curieusement, Ambra Vidal semblait courir aux côtés du professeur de son plein gré. « Mon père !» lança la jeune femme. « Pardonnez cette arrivée fracassante. Il faut qu'on vous parle, c'est très important. » Le prêtre ne savait que répondre. « Acceptez nos humbles excuses, renchérit Langdon. Je sais à quel point tout cela peut paraître étrange. Vous savez qui nous sommes ?»«
Bien sûr, bredouilla-t-il. Mais je croyais que... » »«
Fausse information, interrompit Ambra. Tout va bien pour moi. » Paniqués par l'arrivée de l'hélicoptère, les 2 vigiles en faction devant les grilles franchirent le tourniquet. Ils repérèrent le père Benya et foncèrent dans sa direction. Les 2 agents de la Guardia firent aussitôt volte-face et levèrent la main.
« Halte !»
En apercevant le monogramme de la Guardia, les vigiles s'arrêtèrent net et regardèrent le prêtre.
« No pasares !» leur cria le recteur en catalan. « Tornin al seu lloc ! Tout va bien ! Retournez à vos postes !»
Comme les gardes hésitaient, le prêtre expliqua « Son els meus convidats, ce sont mes invités. Confio en la seva discrecio. Je compte sur votre discrétion. » Les vigiles reculèrent et reprirent leur patrouille de l'autre côté des grilles. Langdon s'approcha et serra la main du prêtre.
« Le père Benya, nous cherchons un livre rare qui est la propriété d'Edmond Kirsch. »
Il sortit le Bristol. « Nous savons que ce livre est ici, en prêt. » Benya reconnut aussitôt la carte. Son double exact accompagnait le livre que Kirsch lui avait apporté quelques semaines plus tôt. En échange de son généreux don, Kirsch avait demandé que le recueil de Blake soit exposé dans la crypte. Une requête étrange, mais bien modeste en regard du montant versé. Le futurologue avait eu une autre exigence, davantage une précision, qui était indiquée au dos de la carte. Le livre devrait être présenté ouvert à la page 163.